Jean-Luc Domenac, vous êtes né en 1945, vous êtes à la fois un sinologue et un politologue, vous avez été à la fois un chercheur et un administrateur, et c'est pour ces raisons conjointes que vous êtes là ce soir. Actuellement, vous êtes chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, mais j'indique tout de suite que ce CERI, vous l'avez dirigé pendant 9 ans, dans les années 1980-1990, et chaque année, vous avez multiplié le budget, vous l'avez dirigé pendant 9 ans, et vous avez multiplié le budget par 9.
Pas chaque année, en 9
ans. Non, mais en 9 ans par 9. Vous êtes donc un homme qui porte bonheur. Vous êtes responsable de l'antenne franco-chinoise de sciences humaines et sociales en Chine, diplômé d'histoire, de sciences politiques, de chinois, docteur d'État. Parmi les différentes phases de votre parcours qui expliquent plus particulièrement votre présence ce soir, je retiendrai vos fonctions d'attaché culturel près du consulat général de France à Hong Kong dans les années 76-78. Vos fonctions de directeur du CERI, je l'ai déjà indiqué. Vous avez donc actuellement la responsabilité du séminaire franco-chinois de sciences humaines et sociales de Pékin à l'université de Tsinghua. Vos spécialités, eh bien, c'est la politique intérieure et extérieure de la Chine populaire, l'ensemble des relations internationales en Asie orientale, et témoigne de votre compétence et de votre intérêt pour ces sujets le très grand nombre d'articles que vous avez publiés dans les revues nationales et internationales, les livres que vous avez publiés, et en particulier, et pour nous en tenir au dernier, « L'Asie et nous » en 2001, chez Desclée de Brouwer avec Aimé Savard, et chez Fayard l'année dernière, « Où va la Chine ?». Vous êtes bien sûr membre de nombreuses associations, mais parmi lesquelles je citerai celle dont vous êtes le plus fier. Vous êtes membre de l'Association pour la défense des principes de la démocratie humaniste. Vous ne savez sans doute pas, chers amis, ce qui se cache derrière cette association. Eh bien, se cache tout simplement le plus important des quotidiens français, Ouest-France. Voilà, je vous cède maintenant la parole pour une cinquantaine de minutes, 55 minutes, à la suite de quoi la parole sera à la salle et le temps sera aux questions.
Merci, Monsieur le Président. Merci à l'Assemblée très, très nombreuse qui marque la vitalité de l'UTLS, la suite que vous, dont vous dirigez les destinées. Merci à tous ceux qui sont venus, parmi lesquels le très grand sinologue Léon Vandermeersch, qui s'est déjà exprimé devant vous, ou le sociologue François de Saint-Gly, d'autres encore que j'ai repérés dans la salle. La question dont je vais parler aujourd'hui, je suis très content que ce soit la dernière des questions abordées par la série sur la Chine, parce qu'au fond, et c'est vrai, c'est la question que nous nous posons sur la Chine, mais c'est la question que les Chinois eux-mêmes se posent, et sur eux-mêmes, et sur nous. Je vis maintenant en Chine, et c'est une conférence que je prononce ici, je ne vais pas lire un texte, je vais au contraire chercher à vous faire rentrer par les moyens d'une conférence dans le sujet, et je ne peux pas ne pas dire que pratiquement quotidiennement, soit en allant chez le petit épicier du quartier, soit en prenant le taxi, j'expérimente ce questionnement intense que les Chinois ont sur nous, et sur leur capacité à nous rejoindre. Sur nous d'abord, parce que on a été pendant si longtemps tellement loin pour eux, et qu'ils se posent toute une série de questions qui tombent à rafale. Combien vous gagnez? Est-ce que c'est vrai qu'en France, chaque individu a une voiture? Est-ce que c'est vrai que chez vous, un jour de travail et un jour de vacances égale un jour de vacances, etc., etc.? Et aussi, est-ce qu'un jour, nous pourrons bénéficier de cette espèce de Babylone qu'est l'Occident, hein, parce que, aux yeux de bien des Chinois, l'Occident est un véritable Babylone, soit par la qualité, soit par la quantité de ce qui est disponible. C'est donc une question pour nous, et c'est une question pour les Chinois, et c'est une question qui est une question essentielle. Il faut quand même reconnaître qu'on la pose à la Chine, nous la posons à la Chine, alors que nous ne posons pas la même question à bien des pays du monde qui pourtant mériteraient qu'on la leur posât. En effet, nous ne posons pas la même question aux Russes. Or, la Russie est un pays qui aujourd'hui est extraordinairement mal connu et dont d'ailleurs les différentes régions vivent de façon extraordinairement différenciée. Nous ne posons pas la question à propos de très grands pays du tiers-monde qui, eux aussi, pourtant, mériteraient d'être explorés. Et je ne parle pas seulement du Brésil, mais même un très grand pays, un pays infiniment plus fermé qu'on le croit souvent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pose cette question à la Chine que, par ailleurs, bien des bataillons touristiques visitent? Il y a maintenant des centaines de milliers de touristes occidentaux en Chine chaque année, et Dieu merci, beaucoup de touristes français. Et je crois que le voyage en Chine, je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour les auditeurs, est un des voyages les plus extraordinaires qu'on puisse faire. Alors, je crois qu'il y a toute une série de raisons qui amènent à nous interroger tantôt sur nous-mêmes, tantôt sur la Chine. Je crois d'abord que nous avons une capacité d'étonnement naïf en Occident qui est quelque chose d'extraordinaire. On a une capacité formidable à s'étonner de l'étranger sans pour autant prendre complètement les moyens de le connaître. Et la Chine a suscité en France, depuis au moins le XVIIIe siècle, toute une série de questions naïves et très souvent niaises, et aussi toute une série d'erreurs de jugement, des jugements tout aussi lapidaires que finalement erronés. Il faut savoir que dans les années 20 ou 30, la question en Occident sur la Chine, les années 1920-1930, c'était: est-ce que les Chinois seront jamais capables de se développer? Est-ce que ces gens-là, on arrivera à les mettre au travail? Est-ce que tous ces fumistes-là, on arrivera finalement, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de ce pays qui, à l'époque, il est vrai, était à feu et à sang? Et maintenant, en revanche, reviennent bien souvent des peurs sur le péril jaune, parce qu'effectivement, il y a des exportations chinoises, il y a maintenant une puissance économique chinoise, et il y a un retour de la puissance politique chinoise sur la scène mondiale. Je crois que les erreurs, les questions erronées et les questions aux réponses erronées se succèdent absolument sans arrêt. Je crois aussi que nous avons le sentiment vague qui excite comme ça l'intérêt vaguement d'une culture différente, alors qu'elle est surtout riche et contradictoire et contrastée. Ceux d'entre vous qui ont assisté à la conférence du professeur Van der Merch sur le droit et les rites, ceux-là auront pu mesurer la différence, mais ils auront pu aussi mesurer, par le discours qui leur a été proposé, que cette différence, si on en prend les moyens, eh bien, on arrive à la comprendre et on arrive à dialoguer avec cette culture. On en revient donc à une troisième raison de cette question que nous adressons à la Chine et qui est plus réelle, plus sérieuse, celle-là. Et cette troisième question, c'est ce troisième obstacle qui excite, disons, la curiosité, c'est la vraie question de la langue. Là, c'est vrai, c'est une raison, disons, de penser la Chine comme différente que j'admets. Oui, la langue chinoise est affreusement difficile. Oui, elle est incroyablement riche. Oui, il faut arriver à la parler et à la comprendre. Oui, il faut ensuite arriver à la lire. Des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de caractères. Ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème que pourtant chaque année surmonte presque un millier environ de diplômés, peut-être un peu plus de diplômés de Chinois des universités françaises. Là est quand même le vrai scandale, parce que si la Chine était aussi passionnante que le croit, si le public français croyait aussi sérieusement que la Chine est passionnante, eh bien pourquoi n'y a-t-il pas plus de jeunes Français qui apprennent le chinois ? Après tout, nous nous inquiétons que la Chine s'ouvre à l'Occident. J'y reviendrai dans ma conclusion. Est-ce que nous nous ouvrons, nous, à l'Orient et à la Chine ? Le chinois, le japonais, l'hindi sont des langues qui portent des cultures incroyablement riches. Est-ce que la France fait vraiment bonne figure ? Est-ce que nous sommes à la hauteur, réellement à la hauteur de notre curiosité ? Je crois que la dernière raison qui explique la question que nous posons à propos de l'ouverture de la Chine, ce sont les énormes incertitudes qui pèsent sur le présent et l'avenir et de la politique intérieure de la Chine et de ses rapports avec le monde. J'ai fait un livre entier pour expliquer qu'on ne sait pas où va la Chine. Je ne sais pas où va la Chine. Je crois néanmoins qu'il faut que nous y réfléchissions et que ça permet au moins d'éviter de dire quelques bêtises trop rapides. Et en effet, la Chine est aujourd'hui un pays qui se développe extraordinairement rapidement, mais rien ne dit qu'elle ne sera pas l'objet d'une crise financière extraordinairement forte ou bien d'une crise sociale majeure. Il y a eu en 1998, devant le comité central, une manifestation subite, comme ça, de gens qui étaient appelés par une secte bouddhiste, Falun Gong, laquelle se targuait d'avoir des dizaines de millions, et peut-être, c'était vrai, d'adhérents. La Chine conserve cette caractéristique, aujourd'hui comme il y a 40 ans ou comme il y a 80 ans, qu'à la fois on a une sorte une dualité historique, c'est-à-dire l'histoire qui se déroule au sommet est une histoire qui donne l'impression à chacun des voyageurs de se muer en un Alain Perfit et d'expliquer que la Chine finalement n'a jamais changé, qu'elle est toujours centrée sur Tiananmen, qu'elle est toujours dirigée par les mandarins. Et puis pourtant, quand on voit une bagarre soudain éclater dans le métro, j'en ai vu, quand on voit tout d'un coup des milliers de paysans se déplacer pour protester devant un parquet général parce qu'ils ont été, ils s'estiment, volés par des promoteurs, et puis quand on voit la panique qui a saisi apparemment le pouvoir politique chinois devant la secte Falun Gong, on se dit qu'il y a une deuxième histoire derrière, qui est une histoire, elle, beaucoup plus difficile à décrypter, et qui peut-être, comme au temps des Taiping, de cette révolte immense qui avait saisi la Chine dans le deuxième tiers du 19e siècle, eh bien qu'à ce moment-là, tout d'un coup, une sorte de vague sociale peut se lever. Il reste ça, l'immensité de la Chine fait qu'elle est très difficile à saisir et qu'on ne sait jamais bien si ce qui se passe à Pékin ne recouvre pas quelque chose de beaucoup qui pour l'instant reste sourd, mais qui prépare peut-être une insurrection massive, un désordre majeur, etc. Donc, si vous voulez, je crois que là sont les raisons, les unes bonnes, les autres mauvaises, de penser que la Chine pose un problème dans son rapport avec l'étranger. J'ajouterais que du côté des Chinois, il y a le pendant à ces questions-là, parce que les Chinois nous réservent à nous un statut d'étranger-étranger qui reste quand même quelque chose d'absolument renversant. Quand je suis allé à l'aéroport, il y a donc 48 heures de Pékin, je suis tombé sur un chauffeur de taxi qui, ça devait être le 200e, à me dire « Ah, vous êtes français, tous les Français sont Langman ».« Langman », ça veut dire « romantique ». Vous êtes donc un romantique. Et quand je lui dis « C'est pas ça », il me dit « Oui, c'est vrai, mais nous, on ne sait pas bien ce qui se passe là-bas et on a du mal à vous différencier les uns des autres et donc il faut nous excuser. Mais vous comprenez, on n'a pas le droit d'aller à l'étranger et puis c'est cher et donc on ne sait pas bien. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra aller chez vous ?» J'ai dit « Oui, si vous continuez à vous développer. Mais vous savez, c'est si compliqué pour nous, faire la différence. Ce serait si simple si vous parliez tous anglais. » Alors bon, je vais lui expliquer que non, que ce n'est pas si simple, que d'ailleurs l'anglais, etc. Enfin bref, voilà. Alors, je vais essayer, voilà, vous voyez, ce questionnement sur la Chine, les Chinois nous le renvoient. Alors, le propos que je vais tenir devant vous, après cette brève introduction, va se développer en deux temps, qui seront suivis par une conclusion où j'essaierai de traiter un certain nombre de problèmes plus généraux. Le premier point, c'est quand même pour dire que la question est un peu bizarre quand on voit l'ouverture de la Chine, qu'elle, pour les raisons, cette ouverture est absolument massive, majeure, brutale même. Et je montrerai dans un deuxième temps que cette ouverture est quand même si rapide, si superficielle, qu'elle ouvre à des interrogations, et des interrogations extrêmement graves, tant sur nous-mêmes que sur la Chine de son propre côté. Alors d'abord, il y a quand même le phénomène de superficie qui rend la question « la Chine peut-elle s'ouvrir au monde ?» décisivement délicate, disons, et peut-être la contredit. En effet, ce qui se passe aujourd'hui confirme, en l'intensifiant, ce qui a toujours été plus ou moins vrai, à savoir que la Chine n'a jamais été complètement fermée au reste du monde. Les sinologues, les historiens montrent que si les différentes dynasties qui se sont succédées en Chine ont toujours eu pour manie, disons, de présenter leur pays comme fermé, que si la grande symbolique de la muraille de Chine montrait bien une Chine, disons, qui se pensait comme devant se protéger devant les invasions et qui se pensait comme devant poursuivre sa différence. Néanmoins, la route de la soie, néanmoins les invasions, néanmoins les emprunts aux différentes cultures ont en permanence alimenté la Chine. Et la route de la soie, par exemple, a été si intensément traversée que les archéologues chinois découvrent chaque mois actuellement un nouveau poste, une nouvelle ville, un nouveau type de produit qui était échangé. Les routes de la soie, d'ailleurs, se sont multipliées, ont multiplié leur dessin à travers l'Asie centrale. Et tous ceux d'entre vous qui sont allés au musée Topkapi d'Istanbul, ont pu vérifier à quel point était intense le commerce de tout, et notamment des céramiques, entre la Chine et le Moyen-Orient, et ensuite l'Occident. Je crois que si la Chine n'a jamais été complètement fermée au monde, le fait central, c'est vrai, c'est qu'elle se percevait comme étant soit au centre du monde, soit plutôt à elle-même un monde, disons. Et c'est ça qui est très, très étrange, c'est ça qui soulève toute une série de questions, c'est cette capacité, non pas tant à ignorer le reste du monde, qu'encore une fois, qu'à se penser comme le monde, et à ne pas tant considérer les emprunts au monde qui existaient. Il y a eu un islam chinois très ancien, il y a eu toute une série il y a eu un judaïsme qui s'est installé en Chine, etc., etc. Mais tout cela n'était pas central dans la perception que les Chinois avaient d'eux-mêmes. Ce qui était central, c'était la spécificité de la civilisation chinoise, c'était sa capacité de se suffire à elle-même. Et il est clair que pour cette raison, les guerres de l'opium qui ont opposé la Chine et l'Occident au XIXe siècle, dans la fin du premier tiers du XIXe siècle, les guerres de l'opium ont été, surtout parce qu'elles se sont terminées par des catastrophes, ont eu un effet sur la psychologie chinoise absolument tragique. En effet, tout d'un coup, c'était un monde qui s'effondrait. La Chine n'était plus au centre du monde, elle n'était plus qu'une partie du monde, une partie qui n'était pas la plus forte, et elle était non seulement défaite militairement, ce qui était relativement acceptable en soi, mais elle était ce qu'il avait vaincu portait une civilisation complètement différente. Et alors, a redoublé une histoire qui est une histoire extraordinairement forte, une histoire extraordinairement dramatique, extraordinairement intéressante, qui est l'histoire des relations entre le christianisme et la Chine, sur cette histoire existe un magnifique livre de Jacques Gernet que je vous conseille de lire, Chine et christianisme, notamment sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, lorsque les jésuites ont approché la Chine. En effet, ces conquérants militaires, ces conquérants économiques qui envahissaient la Chine, ceux-là étaient portés par une idéologie, par une religion qui inversait ce que beaucoup de Chinois percevaient comme étant le cœur même de leur propre civilisation. Il y avait une métaphysique possible, il y avait un individu capable d'entrer en communication avec Dieu, et par là a commencé une désagrégation de la civilisation traditionnelle chinoise, une désagrégation de l'empire chinois, une désagrégation de la société traditionnelle dont est sorti le processus révolutionnaire que finalement le communisme a manipulé à son profit. Le communisme lui-même n'était pas complètement partisan de se fermer au reste du monde. Il faisait partie d'une immense vague qui pensait à utiliser les techniques, mais non seulement les techniques, mais plus le message intellectuel de l'Occident pour le mettre au service de la Chine. Et le communisme venant d'Occident était par lui-même un moyen de se servir d'un deuxième Occident, d'une sorte d'Occident au rabais, contre l'Occident le plus dangereux. Et le communisme était par ce fait-là un premier accès, disons, à une forme d'universel dont la Chine n'était qu'une partie. Dans ce sens-là, le communisme a été une première ouverture fondamentale de la Chine à un universel qui la dépassait et qui l'englobait. Ce qui est vrai, c'est que la direction que Mao Tse-tung lui a donnée ensuite a à nouveau restreint cet universalisme progressivement aux frontières de la Chine. En effet, Mao Tse-tung a pratiqué un nationalisme à prétention universaliste et dont il a en fait réduit l'effectivité aux frontières immédiates de la Chine et à l'Asie. Pendant que dans les années 60, les étudiants de ma génération pensaient très fort à la Chine comme une sorte de nouveau brandon de la révolution universelle, la Chine, elle, avait beaucoup de mal à penser très concrètement ce qui se passait en France. Les anciens maoïstes de Paris racontent toute une série d'histoires très drôles sur les difficultés qu'il y avait d'obtenir l'écoute des diplomates chinois à Pékin. Bref, il n'y a jamais eu l'équivalent du côté du communisme chinois de cet extraordinaire effort que le Comintern a conduit pour le communisme soviétique d'ouverture, de compréhension du reste du monde pour le travailler, pour le gagner à la cause. Les Chinois ont été capables de penser la révolution au plan mondial, mais finalement comme une projection de leur propre expérience, d'une part, et sans être vraiment capables de pousser les révolutions mondiales autrement que par l'aide à quelques maquis en Asie ou à quelques maquis en Afrique, mais ça n'est jamais allé très 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 loin. Donc, si vous voulez bien, cette ouverture réalisée par le communisme était limitée. La vraie ouverture, l'ouverture qui compte, l'ouverture intéressante, l'ouverture forte, astucieuse, c'est l'ouverture qui a été décidée par le petit timonier, par Deng Xiaoping, à partir de 1978-1979. Et c'est une ouverture dont bien des pays du tiers-monde devraient s'inspirer, parce que je crois que par bien des côtés, elle a été conduite d'une façon remarquablement intelligente et efficace. C'est d'abord une ouverture stratégique, c'est une ouverture volontaire, une ouverture filtrée, une ouverture dont les effets sont contrôlés de façon qu'elle ne soit pas trop brutale et qu'elle ne détruise pas, bien sûr, la structure de pouvoir, on y pense immédiatement, mais beaucoup plus que ça, la société et l'économie. Et par là, on peut dire que les communistes chinois ont eu ce qu'ils ont fait en s'ouvrant au monde a été d'une très remarquable intelligence. Ils n'ont pas été les premiers, d'ailleurs, dans le genre. Et au fond, les Japonais, lorsqu'ils ont fait leur ouverture du temps de Meiji, dans le deuxième tiers du XIXe siècle, les Japonais ont fait en gros la même chose, c'est-à-dire s'ouvrir au monde pour se servir des techniques et des messages du reste du monde, s'en servir dans la mesure où on en a besoin. Et ainsi, protéger, si je puis dire, si on choisit un vocabulaire aéronautique, protéger le cockpit, en quelque sorte, des influences venues de l'extérieur. On a bien souvent, quand on voyage en Afrique, on a bien souvent l'envie de conseiller aux pays africains, à la fois trop ouverts et pas assez ouverts, puisque leur ouverture, ils n'arrivent pas à s'en servir pour se développer, on a envie de leur conseiller d'imiter les ouvertures asiatiques, l'ouverture japonaise d'abord, les ouvertures coréennes, taïwanaises, et à l'échelle de la Chine, cette extraordinaire ouverture des communistes chinois. Cette ouverture, en effet, a été très progressive. Elle a été d'abord technologique et économique, puis ensuite elle s'est étendue à la société, et maintenant elle commence à s'étendre au domaine culturel. Elle a également, au plan spatial, été progressive. D'abord, c'était les côtes, puis ensuite, l'ouverture a progressé par les rivières, par les moyens de communication, et maintenant, elle chemine vers les périphéries des minorités nationales et des zones désertiques de l'Ouest. Donc, c'est une ouverture qui a été contrôlée, progressive, et c'est une des raisons pour lesquelles les résultats ont été remarquablement rapides et presque même maintenant on peut dire brutaux. Mais disons, l'ouverture a été digérée progressivement. En effet, ce ne sont pas seulement les techniques, ce sont les modes de gestion, ce sont les méthodes commerciales qui ont été progressivement ingérées et qui font maintenant de la Chine et de son économie, qui font de l'économie chinoise une économie de plus en plus insérée dans le reste du monde. Le commerce extérieur compte maintenant pour environ 20% du PNB chinois. La Chine peut espérer devenir la 8e ou 9e puissance commerciale mondiale dans les années qui viennent. C'est d'ores et déjà un partenaire extrêmement important dont le commerce est favorable, dont les termes de l'échange, la Chine nous vend plus que nous lui achetons. La Chine fait plus de 100 milliards de dollars d'excédent commercial sur le marché américain. C'est aujourd'hui une puissance qui compte. C'est également une puissance dont les élites sont maintenant d'accord sur le long terme pour la considérer comme un acteur de la société mondiale. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce choix d'élites communistes qui bien souvent sont issues de familles dont les fondateurs ont été des héros de l'armée rouge, dont les fondateurs ont ensuite fermé le pays avec une violence inouïe pendant la révolution culturelle. Eh bien, il y a eu un choix, disons, radical, un renversement absolument copernicien qui s'est produit à la fin des années 70 et qui dit beaucoup d'ailleurs sur la nature du communisme chinois. Si le communisme chinois avait été plus communiste qu'il n'était nationaliste, sans doute l'ouverture aurait été beaucoup plus limitée. L'ouverture telle qu'elle s'est déroulée, contrôlée certes, mais quand même d'une puissance inouïe, montre bien que le communisme chinois était avant tout un avatar de l'immense lame de fond nationaliste déclenchée par le viol de la Chine par l'Occident au XIXe siècle. Et c'est ce nationalisme qui explique que les élites chinoises se soient si rapidement convaincues, converties, y compris d'ailleurs jusque dans leurs choix familiaux, puisque dès la fin des années 70, dès le début des années 80, elles placent leur rejeton, leur petit enfant, dans les universités américaines et occidentales. Actuellement, il n'existe pas, à ma connaissance, un membre important du bureau politique chinois qui n'est pas un descendant dans une grande université occidentale, pour l'essentiel américaine. C'est, je crois, plus que tout autre argument, la démonstration que ce choix est un choix convaincu, un choix pour le pays et d'abord pour eux-mêmes, puisqu'ils ont bien l'intention de continuer à le diriger. Et ce choix se traduit maintenant par une ouverture maintenant de la société, même de la culture chinoise. Ouverture qui est d'une brutalité extraordinaire et qui avance à un rythme remarquablement rapide. En effet, la Chine s'industrialise, donc elle s'urbanise, et l'industrialisation et l'urbanisation sont les vecteurs de l'occidentalisation. Nous reviendrons sur ce rapport d'égalité qu'il y a entre ouverture et occidentalisation, car si la Chine s'ouvre au monde, elle s'ouvre d'abord à l'Occident. Et les villes, qui sont en même temps des centres industriels, sont les grands vecteurs de l'occidentalisation de la société. Cette occidentalisation se traduit d'abord par, les mutations les plus superficielles, l'arrivée du plastique, du Coca-Cola, de la télévision. Mais maintenant, elle pénètre, des domaines beaucoup plus privés. Le divorce se répand, les comportements individuels se multiplient, la consommation s'étend, les loisirs également. Un exemple, dans ma rue, le mari de la petite marchande de petites choses, elle vend des bonbons, des cigarettes, des bouteilles de bière, etc. Elle gagne peut-être, il gagne peut-être 2-3 000 francs par mois. Donc ils épargnent énormément, le taux d'épargne est considérable en Chine, justement en bonne partie pour pouvoir voyager. Et ils voulaient aller en France. Et donc le petit enfant, un enfant unique, donc et ce sont les petits empereurs, il y a une fascination de l'enfant unique, le petit enfant va être conduit par son père à l'étranger. Ils voulaient aller en France, ils sont allés devant l'ambassade de France, mais comme devant l'ambassade de France, il y a une queue d'un kilomètre pour les visas, ils se sont rabattus sur la Thaïlande, ils vont dans un premier temps en Thaïlande, ils iront ensuite en France. Quand j'ai dit, mais écoutez, vous devez avoir un revenu peut-être de 3 000, 4 000 yuan par mois, et ça coûte le billet pour la France, c'est 5 000, ils disent, mais on épargne, ça fait des années qu'on épargne pour ça. Et nous voulons un peu voir comment les Français vivent, comment les Occidentaux vivent, parce que c'est intéressant pour nous et c'est intéressant pour la formation du petit, pour plus tard, pour qu'il soit lui-même quelqu'un qui a un bon métier, qu'il connaisse des langues étrangères, qu'il connaisse l'Occident, etc., etc. Donc il y a actuellement un phénomène d'extension au domaine du social et même au domaine culturel. L'apprentissage linguistique de l'anglais est devenu une manie collective. Et peut-être que plus tard, et les autres langues progresseront, en tout cas la France elle-même est une destination touristique de plus en plus appréciée. Donc vous le voyez, occidentalisation économique, occidentalisation sociale, occidentalisation linguistique, si je puis dire, il y aura les Jeux Olympiques, occidentalisation maintenant littéraire, on traduit Bourdieu, on traduit Paul Ricoeur, on traduit les Freud, les Freudiens français, les autres, les pas français, les autres, etc. Bref, la scène culturelle chinoise est de plus en plus occupée par l'étranger. Qu'est-ce qui reste fermé, au fond, dans la Chine d'aujourd'hui ? Peut-on se demander à l'issue de ce rapide survol de l'ouverture? Eh bien, ce qui reste fermé, c'est deux choses. D'abord, c'est la politique qui est conduite suivant les règles du communisme et suivant les manies, il faut bien le dire, du communisme. Et la deuxième chose qui reste fermée, eh bien, c'est, j'allais dire, et je vais y venir maintenant, c'est l'essentiel. Ce qui reste fermé, c'est le sentiment que les Chinois ont d'eux-mêmes et qui reste profondément marqué par la conscience que leur destin est un destin très profondément chinois, que personne ne peut partager complètement, comprendre complètement. Ce qui reste fermé, c'est finalement ce sentiment... le sentiment d'appartenir à notre monde. Oui, les Chinois exportent chez nous. Oui, ils veulent venir chez nous. Mais au fond, ils n'ont pas encore résolu la question de savoir s'ils étaient partie prenante de notre monde. Et c'est cette question que je voudrais étudier dans un deuxième temps, en me servant un petit peu des réactions nationalistes ou national-populistes de méfiance qui se manifestent dès que un pays d'Occident se conduit mal ou commet une erreur à leur sujet. Un exemple tout à fait extraordinaire, c'est le cas du bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade que l'aviation américaine jure, c'est grand Dieu, avoir réalisé par erreur au printemps 1998. Comme vous savez, l'ambassade chinoise a été dévastée, il y a d'ailleurs eu quelques morts. Et en France, tout le monde s'est dit, ça y est, les Américains recommencent, quoi. Encore une bêtise, parce que les plus âgés parmi nous se souviennent des bombardements américains de 1944. Il n'y a rien à faire, les Américains bombardaient toujours de très haut. Et quand, moi je suis lyonnais, quand ils visaient Perrache, ça arrivait jamais sur Perrache, sur la gare de Perrache, ça arrivait beaucoup plus loin. Bon, et on se dit, ils ont bombardé plusieurs ambassades de France. Il y a une ambassade de France à Hanoï, une ambassade à Tripoli, etc. Donc on se dit, ça y est, c'est encore une erreur, les Américains sont pas très fins, bon, voilà. La Chine tout entière, au contraire, s'est dit, ça y est, les Américains, volontairement, ont bombardé notre ambassade. Alors, quand je leur dis, mais les Américains peuvent se tromper, ils disent, pas eux quand même, pas eux quand même. Parce que ils surestiment le potentiel technologique de l'Occident, et du meilleur de l'Occident, d'une part, et d'autre part, il y a tout de suite cette méfiance, disons, qui ressort, cette méfiance qui fait que si un Occident, un pays d'Occident ou un Occidental se comporte mal, eh bien c'est finalement la même histoire qui recommence, l'histoire du sac du palais d'été, l'histoire de l'invasion, du viol de la Chine par l'Occident, l'histoire de finalement de la différence. Lorsque un pays d'Occident, c'est souvent actuellement les États-Unis, prend des mesures un petit peu dures à l'égard d'un pays du tiers-monde, actuellement c'est l'Irak, la population chinoise au courant, massivement, cette population-là, les paysans ne savent rien, donc pour l'essentiel, c'est la population urbaine, où les paysans sont très loin de tout ça, mais la population urbaine est actuellement à 95% anti-américaine, estime que dans l'affaire irakienne ou dans l'affaire coréenne, ce qui se passe, c'est un chapitre supplémentaire de la vieille histoire de l'hégémonisme occidental dont maintenant les Américains ont repris le flambeau. Et lorsque les Français commettent une erreur, de quelque façon, vendent un matériel militaire jugé excessif ou dépassant l'admissible par les autorités de Pékin, il n'y a pas de problème. Pour la grande majorité de la population chinoise, ce sont les Français qui ont tort. Et il y a plus que ça. Derrière tout ça, il y a des réactions nationalistes, anti-étrangères, qui sont parfois à vif et qui sont assez souvent déclenchées par l'entrée de la Chine dans l'OMC. Maintenant, le marché chinois est de plus en plus ouvert aux exportations étrangères. Ces exportations n'atteignent pas seulement le haut de gamme, elles atteignent maintenant de plus en plus la texture même de l'économie chinoise, et notamment sa base rurale. En effet, l'agriculture américaine est bien plus performante, l'agriculture australienne aussi, que l'agriculture chinoise, et des pans entiers de l'agriculture chinoise, notamment l'industrie céréalière chinoise, sont actuellement en très mauvaise situation face aux importations qui s'imposent de plus en plus d'autres pays. Et la tentation est maintenant de plus en plus grande pour nombre de responsables économiques chinois ou de petits cadres des localités de rendre l'étranger responsable des difficultés de l'économie chinoise et de son manque, il faut bien le dire, dans certains domaines, de compétitivité. Et on voit monter de plus en plus une sorte de lame de fond qui évolue avec la situation des secteurs industriels ou agricoles en difficulté, une lame de fond qui rend l'étranger responsable des difficultés de ce secteur-là ou de l'économie chinoise. Alors tout cela est extrêmement intéressant parce que à la fois ça veut dire deux choses. D'une part que la Chine est déjà dans le monde puisqu'elle en souffre et qu'elle est au fond tiraillée comme notre propre société par un double sentiment de profiter du monde mais en même temps bien entendu de payer le moins cher possible son entrée dans le reste du monde. Et donc la société chinoise comme la société française est travaillée à la fois par un mouvement, disons, d'adhésion commerciale au reste du monde et en même temps un mouvement, disons, de méfiance et de crainte à l'égard du reste du monde. S'il y avait des élections en Chine, je crois qu'une tendance populiste, nationaliste et méfiante à l'égard du reste du monde vraisemblablement obtiendrait un nombre de voix tout à fait considérable et la tentation serait très forte pour le Parti communiste s'il y avait des élections libres, de prendre à son compte tout ou partie d'un programme nationaliste beaucoup moins ouvert au reste du monde. Mais d'autre part, donc il y a donc une dualité, un, on s'ouvre, deux, on veut payer le moins possible, le moins cher possible cette ouverture. Cette dualité rend compte de ce phénomène que je vous disais tout à l'heure, déjà, et sur lequel je voudrais insister maintenant, qui est la profondeur sociale et géographique du pays, d'une part, et d'autre part, la difficulté qu'il a de se considérer psychologiquement et intellectuellement totalement dans le monde. Tout d'abord, la profondeur et l'immensité de la Chine. Bon, les côtes chinoises évoluent à toute allure vers le reste du monde. Et Shanghai, maintenant, est en train de devenir une belle ville du monde. Une belle ville, une ville où il y a des cafés, une ville où il y a un goût de se promener. Shanghai est aujourd'hui une métropole du monde. En revanche, à 500 km de Shanghai, dans les montagnes du Zhejiang, là, les petites bourgades sont dévastées par l'industrie et la pollution, et les gens vivent beaucoup plus difficilement. Vous allez à 2000 km plus loin à l'intérieur, et aux confins du Hubei et du Sichuan, existent des zones qui n'ont parfois été d'ailleurs même pas véritablement pratiquées par l'être humain, et où, sur lesquelles les Chinois se racontent des histoires de yétis, des histoires d'humanoïdes, etc., etc. Et bien plus loin, aux confins du Tibet, il y a encore des pillards, des tribus qui vivent comme ça en marge du reste de la société et qui ne sont pas complètement contrôlés par le pouvoir. La question est posée de savoir comment se véhicule l'influence venue des villes dans ces marges extraordinairement lointaines. Et bien souvent au Tibet, bien souvent dans les marges musulmanes, il reste fort peu de choses de l'influence venue du large. Plus grave sans doute, dans les zones même où cette influence est la plus forte, les plus ouverts des Chinois bien souvent donnent l'impression de diviser leur esprit en deux, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent au reste du monde, mais qu'ils ont ouvert pour lui une sorte de meuble spécial où il range les informations en quelque sorte, et qu'une forme de dualité construit leur comportement. D'une part, il y a la partie ouverte de leur comportement, et d'autre part, il y a la partie, disons, qu'ils considèrent comme étant chinoise, comme étant rituelle, ou comme étant leur propre société, comme étant quelque chose qui ne se prête pas, disons, à débat, à dialogue avec le reste du monde. Si bien qu'on a bien souvent l'impression que coexistent deux façons de vivre ou deux façons de se penser qui ne sont pas toujours d'ailleurs les façons les plus riches, les façons les plus intéressantes, les facettes les plus intéressantes, soit de la civilisation chinoise, soit de la civilisation occidentale. En effet, bien souvent, ce qui reste de chinois dans la société ouverte au reste du monde est une sorte de conception relativement et de pratique assez appauvrie de la tradition chinoise. À l'inverse, ce qui est par ailleurs ce qui est reçu de l'Occident, ce qui est ingéré de l'Occident, est bien souvent extraordinairement superficiel. Ce sont des modes, ce sont des façons d'être. C'est le Coca-Cola, c'est Alain Delon. Il n'y a pas grand risque à vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a des centaines de milliers de Chinoises, pour ne pas dire des millions de Chinoises, qui rêvent à Alain Delon, parce qu'Alain Delon reste une sorte d'image indépassable de la beauté. Et qu'il n'y a pas grand risque non plus à vous dire qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de Chinoises qui réfléchissent à telle ou telle actrice française, parce que la beauté française est considérée comme, là aussi, quelque chose d'indépassable. Je trouverais pour ma part plus intéressant qu'en fonction de ce qu'ils reçoivent de l'Occident, les Chinois fassent réagir leur propre culture en quelque sorte, et que de l'interaction entre ce qui vient et qui est bien souvent appauvri mais qui s'enrichirait justement de la tradition, et ce qui arrive de l'Occident, sorte quelque chose qui soit un élément nouveau de la culture, un stade nouveau de la culture chinoise. Or, on est frappé de voir que bien souvent, l'art chinois, la peinture, disons, oscille entre, une admiration béate et une imitation un peu naïve de l'Occident, d'une part, et d'autre part, une sorte de duplication de traditions à peine modifiées, mal reproduites, disons. Et de ce point de vue-là, la Chine me paraît beaucoup moins avancée dans son débat avec l'Occident que beaucoup d'autres pays d'Asie. Je pense au Japon, qui a immensément réfléchi à l'Occident, qu'il a immensément traduit, qu'il a immensément étudié. Je pense à la Corée du Sud, dont l'art témoigne d'efforts, disons, de dialogue, d'efforts d'utilisation de l'Occident ou pour, disons, faire surgir, faire progresser, faire surgir une nouvelle culture coréenne. Je pense même à Taïwan, dont la culture est extraordinairement riche. Le cinéma taïwanais, à mon avis, très supérieur au cinéma de Chine continentale, le montre bien. Donc vous le voyez, je crois que le processus d'ingestion des influences de l'Occident est encore assez mécanique, assez divisé, assez schizophrène, et que la Chine a grand besoin, disons, de s'arrêter sur ce qu'elle ingère et d'essayer d'y réfléchir et d'y imprimer, disons, son propre sceau. Un bon exemple, c'est la question de l'urbanisation en Chine. Les villes chinoises traditionnelles étaient, je crois, une façon d'être, une façon culturelle d'être, une des plus extraordinaires qu'il y ait au monde. Je crois que le vieux Pékin était quelque chose, ou le vieux Suzhou, même le vieux Shanghai, d'ailleurs, c'était pas mal. C'était une façon de vivre ensemble, dont, d'ailleurs, que reflètent d'ailleurs les romans, par exemple, de Lao Tzu, tout à fait admirable. Et il y avait là une façon d'être en société qui atteignait un niveau de raffinement dans l'affirmation individuelle et en même temps la prise en compte du groupe social qui a peu d'équivalent dans le reste du monde. Typique de la façon dont se produit l'ouverture chinoise est le ravage de tout ce qui est vieux, de tout ce qui est, et surtout si c'est populaire, par un moderne occidentalisé qui est bien souvent mécaniquement américain. Shanghai est sur ce point-là une exception, et qui traduit là aussi cette espèce de conception binaire. Si on est chinois, on est chinois. Si on n'est pas chinois, c'est qu'on est occidental. Ainsi, les villes chinoises sont-elles actuellement ravagées par une manie san-franciscienne ou los-angelésienne qui est tout à fait dramatique. Et il y a là, je dirais, quelque chose de tout à fait significatif de cette brutalité, de cette schizophrénie de l'ouverture chinoise au reste du monde. Une dernière série de questions que pose l'ouverture de la Chine au reste du monde, c'est la confusion qu'il y a en Chine entre l'ouverture au monde et l'ouverture à l'Occident, d'abord, et ensuite une deuxième confusion entre l'ouverture à l'Occident et l'ouverture aux États-Unis. Il y a la Chine, la société chinoise tout entière, est actuellement ravagée par un rêve américain qui est, je crois, absolument délirant. Ce rêve l'a conduit, en effet, d'abord à schématiser les États-Unis. Je crois qu'il y a certainement dans cette salle des gens qui connaissent très bien les États-Unis, et ceux-là seront d'accord avec moi pour dire qu'il y a de tout aux États-Unis, qu'il y a de tous les milieux sociaux, qu'il y a de toutes les sociétés, et que l'Amérique californienne, c'est une chose, qu'il y a d'ailleurs des Californies, et qu'il y a par ailleurs une richesse sociale, une diversité sociale absolument incroyable. Des États-Unis, ce que la Chine reçoit, ce qu'elle retient, c'est la Californie. Par ailleurs, l'Europe ne reçoit de la Chine qu'un rêve qui est très spécifique. L'Europe, c'est le pays où l'on jouit. C'est le pays du bonheur social. C'est le pays, vous vous rendez compte, c'est le pays où quand on est malade, on est quand même payé. Vous vous rendez compte? Et donc, les Chinois qui admirent l'Europe, c'est pour cette raison-là. Ou alors, c'est l'Europe du Club Méditerranée. L'Europe de Sophie Marceau. Voilà. Mais ils pensent que, en gros, les Européens sont des Occidentaux qui se sont endormis sur leur tartine de confiture. Et cette conception de l'Europe n'est pas sans un certain mépris, d'une part, et sans une certaine aussi négligence de ce que l'Europe a réalisé de très bien et dont la Chine ferait bien de s'inspirer. Après tout, la façon dont les Italiens ont réussi à combiner leur développement industriel et la protection de leur centre-ville est, je crois, quelque chose dont les Chinois pourraient s'inspirer. Il m'est arrivé, du pont de Rialto à Venise, de tomber sur une délégation chinoise qui était tout en bas. Et je me rappelle, j'étais tellement énervé qu'en chinois, je leur ai fait tout un discours en leur disant « Écoutez, ne vous contentez pas de visiter, mais essayez d'en prendre de la graine, essayez de réfléchir à ce que ça pourrait vous apporter. Venise est à la fois une ville industrielle, vous pouvez la visiter, elle est là-bas, elle est loin. Et là, il y a le Grand Venise qui est un Venise presque intact. » Et de ce Venise-là, vous pourriez vous inspirer pour protéger votre propre Venise, la ville de Suzhou, qui est devenue l'équivalent de l'île Roubaix-Tourcoing. Donc, il y a une négligence de ce que nous avons réussi à faire de bien et de ce que nous avons réussi à faire de bien dont ils pourraient avoir besoin eux-mêmes. Car même les Chinois avec leur taux de croissance extraordinaire, 7, 8% actuellement, feraient bien de s'inspirer de la politique sociale telle qu'elle a été expérimentée en Europe, tant dans ses succès que dans ses difficultés. Car ils ont maintenant des chômeurs, car les chômeurs manifestent, et le pouvoir a beau être communiste et se dire le pouvoir du prolétariat naturellement, le pouvoir maintenant, il fait comme font à peu près tous les pouvoirs, il cède aux revendications sociales. Donc il y a maintenant des politiques sociales. Donc il y a maintenant des politiques familiales, maintenant. Les familles entendent qu'on les respecte. Donc il y a maintenant des partenaires sociaux. Je trouve que des discussions, des colloques avec les sociologues occidentaux et notamment européens leur feraient beaucoup de bien. Pire que ça, je crois que les Chinois ignorent la dimension proprement mondiale du monde d'aujourd'hui. Car ce qui est extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui, ce qui fait sa richesse et ce qui fait également sa tragédie, c'est évidemment la diversité. Diversité nord-sud, mais les différents suds. Cette richesse anthropologique extraordinaire qu'offrent les sociétés arabes, africaines, latino-américaines. Ce terrain, disons, de réflexion incroyable qu'offre à tous ceux qui imaginent la société, la politique, des sociétés différentes. Là, il faut dire les choses comme elles sont. Les Chinois ont du mal à faire la différence entre bien des peuplades, et j'utilise volontairement le terme de peuplade, du tiers-monde, et, disons, races, animales. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'attention en Chine d'aujourd'hui à l'égard des Africains. Les Chinois ne considèrent en effet le reste du monde qu'en fonction des PNB, du niveau de vie. Et j'ai eu cette discussion extraordinaire avec un grand spécialiste des relations internationales chinois récemment, à qui je disais que ça serait très intéressant de faire un colloque sur le terrorisme musulman, le terrorisme et ses rapports avec l'islam, en lui disant, par exemple, un des thèmes pourrait être « Est-ce que le surgissement du terrorisme n'est pas finalement le signe d'un échec de l'islam politique, d'un échec temporaire ? L'islam a été une grande civilisation, mais il a un problème avec la civilisation industrielle. On peut se poser cette question. » Et c'est une question sur laquelle les spécialistes de l'islam font des livres. Il y a eu un livre d'Olivier Roy sur ce sujet-là. « L'échec de l'islam politique » est un très grand livre. Et il m'a arrêté tout de suite, il me dit « mais la question est réglée, l'islam a complètement échoué, tous les pays, tous les régimes dont les populations sont à majorité musulmane, tous ces régimes-là ne comptent pas sur la surface de la planète, et le problème du terrorisme est purement et simplement un problème de police. » Bon, alors j'ai renoncé, et voilà où on en est. Alors, tout ça nous conduit à une dernière question qui est finalement… Est-ce que la Chine, c'est vraiment ce qu'elle veut faire dans le monde d'aujourd'hui ? Ses dirigeants, oui, veulent bien quelque chose qui est aller dans le marché mondial, en retirer des techniques, de l'argent pour financer le développement chinois, et ils le font avec une remarquable efficacité. Et je le redis, beaucoup de pays du tiers-monde auraient intérêt à s'inspirer des méthodes chinoises et plus généralement asiatiques. Mais d'un autre côté, que veulent-ils faire dans la société mondiale ? Veulent-ils y participer ? Veulent-ils y apporter une idée de son organisation ? Que doit être le monde pour les responsables chinois et pour la population chinoise ? C'est une question qui attire relativement peu d'intérêt, au moins jusqu'à une période très très récente. Et c'est depuis seulement quelques années, quelques mois, qu'on voit des diplomates chinois se montrer plus actifs, prendre des positions plus positives. Mais au fond, Pékin, le régime chinois attire tellement l'intérêt dans le reste du monde qu'on se dit que si les diplomates chinois, si les journaux chinois produisaient, disons, du sens pour le reste du monde, ils seraient entendus et c'est une voix qui ne manquerait pas d'intérêt à l'heure actuelle, à l'heure où, disons, je ne crois pas que c'est s'avancer beaucoup, que dire que le monde d'aujourd'hui est caractérisé par une hégémonie forte d'une puissance en particulier. Alors je conclus cette deuxième partie en disant que vous le voyez, là, c'est vrai que l'ouverture a été puissante, efficace et même exemplaire d'ailleurs dans ce sens-là, que la Chine en retire beaucoup, mais qu'en même temps, des questions graves restent posées sur la réalité profonde de cette ouverture, sur sa nature, sur le regard que la Chine porte sur le reste du monde et sur l'organisation de sa société. Alors, je voudrais conclure dans les 7-8 minutes qui me restent. Je voudrais conclure, c'est ça, 7-8 minutes 5, par trois réflexions. Première réflexion, cette situation me paraît explicable et compréhensible. D'abord parce que si la Chine ne comprend pas bien l'autre, c'est aussi qu'elle n'a pas complètement achevé la définition de sa propre société, la définition de son propre régime politique. Sa politique se détend progressivement, la population a de plus en plus possibilité de prendre part au débat interne, mais le processus est lent et il faudra attendre que ce processus avance pour que, disons, la Chine elle-même se pense mieux et ainsi nous pense mieux. La deuxième série de réflexions porte sur la banalité relative de cette situation. Vous pourriez penser qu'après tout, c'est le cas de la France que d'être ouverte à l'égard du reste du monde, mais pas complètement, et en même temps de subir cette ouverture comme une souffrance. Et donc, la société chinoise est dans un cas qui n'est pas totalement différent. C'est vrai, et pourtant, la Chine est banale, mais pourtant, elle est, j'allais dire, si massivement banale, si diversement banale, que cette banalité ne soit jamais totalement banale. Et que donc, il restera toujours dans ce pays, par la masse, par la densité, par la variété, par le fait que c'est un monde et qu'il y a une vingtaine de nations européennes à l'intérieur de la Chine, il restera toujours quelque chose qui fait que jamais toutes les provinces chinoises ne percevront, ne sentiront l'ouverture comme les autres. Mais je voudrais terminer par toute une série de réflexions sur des réflexions qui nous concernent, nous autres occidentaux et nous autres français. Car après tout, c'est avec beaucoup de culot, si je puis dire, ou avec beaucoup d'assurance que nous nous adressons aux Chinois en leur disant « Ouvrez-vous à nous. Ouvrez-vous un peu mieux. Qui sommes-nous donc pour exiger de la Chine qu'elle s'ouvre ainsi plus totalement, mieux à nous-mêmes ? Qu'est d'abord notre ouverture à la Chine ? Est-ce que nous avons à être si fiers de nous, nous autres Français, de ne produire qu'un petit millier, peut-être un tout petit peu plus, je ne sais pas bien, mais c'est d'ordre d'idée, de diplômés de Chinois chaque année ? Et cela fait-il 1000 personnes capables de parler vraiment le chinois ? C'est une autre affaire. Qui sommes-nous pour exiger de la Chine qu'elle s'ouvre à nous quand un Français, un Parisien moyen, ne serait pas capable de citer plus d'un ou deux écrivains chinois du XXe siècle ? Un Chinois moyen est au fond pas si différent de nous. Deuxième série de choses, il y en a une seule ensuite et je terminerai. Nous faisons assez souvent la leçon à la Chine et je crois qu'elle s'y prête dans certains domaines, notamment au plan, il faut bien le dire, des droits de l'homme ou du système politique. Pour cela, il faudrait que nous-mêmes soyons totalement, et peut-être un peu plus totalement, fidèle à notre propre principe, dans notre propre pays, d'une part, par notre comportement en Chine, d'autre part. Un exemple, allez regarder à la sortie de l'avion de Pékin, à l'aéroport de Roissy, la façon dont nos douaniers s'adressent à des Chinois parmi lesquels ils soupçonnent un immigrant chez chaque voyageur. Voilà, c'est parfois très bien, ils parlent parfois très bien, ils parlent parfois beaucoup moins bien. Sommes-nous toujours aussi accueillants qu'ils le sont eux-mêmes dans leur propre société ? Notre société n'est pas toujours si modèle que ça dans son comportement avec l'étranger, quelle que soit la couleur de sa peau, et les Chinois savent cela et leur presse s'en fait écho. Dernier point, enfin, une minute. Que vaut notre société ? Que vaut notre monde ? Je dis, et je crois profondément à ce que je dis, que la Chine devrait plus participer au monde, qu'elle devrait plus donner au reste du monde. C'est vrai. Mais ce que nous en avons fait de ce monde-là, est-ce que, finalement, nous pouvons en être si fiers que ça ? Pour une civilisation comme la civilisation chinoise, qui met très haut à l'origine, depuis longtemps, les principes, disons, des vertus fortes, cette civilisation-là, nous lui donnons l'exemple, au contraire, de société fondée sur le profit. Avons-nous, finalement, le droit de lui reprocher de nous utiliser matériellement et de fonder sur le profit son engagement dans le monde, de profiter de nous, en d'autres termes, alors que nous mettons le profit au centre de nos sociétés et au centre de la société mondiale. Et enfin, nous disons à la Chine, et je crois qu'il faut le lui dire, parlez-nous, dites-nous des choses, donnez-nous votre avis sur le monde. Pour autant, est-ce que nous sommes bien sûrs que lorsqu'elle nous donnera cet avis-là, nous autres, occidentaux, est-ce que les Américains aussi, il faut bien le dire, écouteront ce que les Chinois lui diront, leur diront ? C'est une vraie question. En quelque sorte, la difficulté que les Chinois ont à s'ouvrir à notre monde et les faiblesses de leur propre ouverture à notre monde sont aussi, jusqu'à un certain point, le reflet des faillites et des limites de notre monde. Merci.
Bonsoir, merci de votre excellente exposé. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est que vous avez mentionné les jeunes Chinois qui vont à l'étranger. Donc, je voudrais poser la question, c'est que est-ce que vraiment ils sont dans la tête l'intention de comprendre l'Occident, de communiquer avec eux, ou plutôt de s'installer aux États-Unis pour, comme vous le dites, c'est de dormir sur leur tartine. Voilà, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous avez mentionné la dualité d'une Chine. Donc l'une, c'est de la Chine de l'ouverture, et l'autre, c'est la Chine qui est plutôt nationaliste, qui est plutôt très très chinois. Donc ma question était de est-ce que ça pourrait être comprendre d'une façon de la division de la Chine géographiquement de l'Est à l'Ouest, la vaste région de l'Ouest qui est encore fermée entre eux et qui occupe une population assez importante. Merci.
D'abord, je voudrais vous dire, monsieur, que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de jeunes... Vous êtes chinois, je crois, d'origine, hein? J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de Français qui aient un Chinois aussi bon qu'est votre Français. Hein. Et là, vraiment, je trouve ça magnifique. Hein. Vraiment. Sur les jeunes Chinois, je crois que c'est très complexe. Pourquoi les jeunes vont à l'étranger ? C'est très complexe. C'est le moment, il y a des sociologues dans la salle qui ont étudié tout ça. Il y a à la fois des attentes professionnelles et une immense curiosité. Et puis ensuite, on rencontre des gens, on tombe amoureux avec quelqu'un sur place, on se marie, et bien souvent, on fait souche sur place, mais pas toujours. Ce que je crois, c'est qu'il y a deux éléments forts. D'une part, la volonté des dirigeants politiques chinois d'envoyer beaucoup de jeunes Chinois en Occident pour qu'ils s'y forment dans les meilleures universités, qu'ils y apprennent les techniques du plus haut niveau. Qu'importe si seulement un quart rentre en Chine, c'est déjà qualitatif. Et actuellement, il est impensable pour un étudiant chinois de postuler pour un poste d'enseignement dans une université si on n'a pas au moins des contacts à l'étranger, et si possible même une thèse à l'étranger ou bien un bout d'étranger dans la thèse, si je puis dire. Deuxièmement, c'est vrai aussi que beaucoup de ces jeunes Chinois font souche à l'étranger, et je crois que ça dit beaucoup de choses sur cette dualité dont je parlais, dont je vais reparler dans un instant. En effet, beaucoup de Chinois à l'étranger se disent « c'est quand même mieux l'étranger » ou bien « ça sera tellement dur de porter l'économie chinoise et la société chinoise au niveau qui est le niveau de l'étranger » ou bien « ce que je vis dans ce pays étranger » je ne le retrouverai pas complètement en Chine, et ce que la Chine m'offrira professionnellement ne vaudra pas cette jouissance de la liberté, cette jouissance de d'une culture apaisée, d'une société mixte dont la France ou d'autres pays d'Europe, dans un autre sens aussi les États-Unis, fournissent l'exemple. Un jeune Chinois me disait récemment « J'ai décidé de demander la nationalité française, non pas tant parce que je deviendrai complètement français, je doute que les Français me considéreront jamais totalement comme un Français, mais parce que le mode de vie français me paraît être le plus propre à assurer le bonheur d'un individu. » Je lui dis « Mais en Chine aussi, on peut être heureux. » Il me dit « Ah oui, mais la Chine est brutale, la Chine est dure. » Et c'est vrai, la Chine offre les duretés, disons, d'une société en plein Far West, qui se développe à toute allure, et où, à chaque instant, peut se la ruine, ou au contraire, chaque instant, non, mais chaque jour, peut-être, la ruine, ou au contraire, le succès, sont là, qui sont possibles. Donc, je crois qu'il y a l'un, il y a l'autre. J'irai plus vite sur votre deuxième question. L'ouverture, d'une part, nationalisme ou fermeture, d'autre part, est-ce que ça recouvre, disons, une réalité géographique ? Non, pas complètement. Il y a, c'est vrai, le fait que les provinces de l'intérieur sont moins ouvertes, moins pénétrées par l'ouverture. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que même dans les zones côtières, les mêmes personnes qui sont les plus ouvertes à l'Occident, les plus capables de parler l'anglais, les plus occidentalisées, se pensent encore comme différents, se pensent encore comme spécifiques et n'arrivent pas à réaliser ce que je souhaitais que fût réalisé là-bas en Chine, mais aussi en France, c'est-à-dire cette mise en débat de la culture de l'autre, de la différence, pour enrichir ses propres identités. C'est à ça que sert le voyage, c'est à ça que sert l'ouverture à un pays, c'est à ça que sert le fait de maîtriser une langue comme vous la maîtrisez, monsieur, c'est d'arriver, disons, à faire que les cultures se métissent pour se réinventer. Et ça, j'ai l'impression que c'est particulièrement difficile dans l'âge social que connaît la Chine d'aujourd'hui. Mais l'exemple du Japon, je trouve une société actuellement incroyablement avancée, qui a incroyablement réfléchi sur l'étranger et qui est, à mon sens, en train de se réinventer véritablement, l'exemple du Japon montre qu'on peut y arriver et que la Chine, donc, la société chinoise, pourrait y parvenir un jour.
Oui, merci pour votre présentation. Que pensez-vous de la présence de la Chine dans les organismes internationaux et dans les traités internationaux ?
Voilà, c'était l'exemple que j'avais derrière la tête quand je disais tout à l'heure que la Chine n'est pas assez présente dans le reste du monde. La diplomatie chinoise est une diplomatie qui, et ça vaut mieux que le contraire, parle assez peu, qui est une diplomatie qui n'aime pas les paroles creuses, et disons ça a pas mal changé par rapport à l'époque de Mao Zedong. C'est une diplomatie qui est très au service de ses intérêts, des intérêts nationaux chinois. C'est donc une diplomatie très bilatérale, beaucoup plus bilatérale que multilatérale, et qui, par exemple, s'est toujours assez méfié des regroupements régionaux, par exemple. Les Chinois ont mis très longtemps à comprendre que l'Europe était une réalité, même s'ils ont eu une ambassade à Bruxelles très tôt. Ça n'est que depuis peu de temps, et typiquement d'ailleurs depuis la montée de l'euro. Là, je suis sorti le jour où l'euro a dépassé le dollar, je suis sorti dans ma rue en gonflant la poitrine et en agitant les biceps. Et l'épicière m'a dit, alors dites donc, vous avez vu ça? Je savais que ça allait venir. Bon, là, depuis ce moment-là, il commence à regarder l'Europe. Bon, tant mieux, après tout, il vaut mieux vaut tard que jamais. Mais ils ont souvent eux-mêmes intérêt, disons, à jouer la France... Et on s'y prête, rassurez-vous, contre l'Allemagne, l'Allemagne contre l'Angleterre. Et il y a encore de l'avenir pour ce genre de pratique, l'Europe étant ce qu'elle est. Hein. Donc, c'est une diplomatie très bilatérale, fort peu multilatérale, qui n'aime pas trop envoyer des contingents à l'étranger. C'est en train seulement de commencer à changer. Et la Chine a encore une politique étrangère qui vise beaucoup les intérêts nationaux, qui les met très au-dessus, ses propres intérêts ou les intérêts nationaux des autres, au-dessus des grands problèmes mondiaux. Par exemple, elle est très en retard sur la plupart des diplomaties, disons, des pays avancés, sauf les États-Unis, sur les questions de l'environnement, sur les questions de ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, l'environnement ou bien les problèmes de l'espace, etc. Et c'est typique, disons, d'une difficulté à penser... Son propre apport au reste du monde et sa propre participation à la société mondiale.
J'ai été absolument ravie d'entendre votre intervention ce soir. Il est absolument étonnant combien les Chinois sont fascinés par l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier et la France en second. J'ai été absolument étonnée moi-même de voir en Mandchourie du Nord qu'il y avait sur des résidences... des nouvelles résidences d'habitation, la construction de petites tours Eiffel en miniature. Alors, également, en Mandchourie du Nord, les Chinois sont très méfiants à l'égard des Blancs, je dirais, parce qu'il y en a très peu. C'est une société encore assez sauvage, et notamment, ils assimilent les Blancs aux Russes. Alors, effectivement, dans les grands magasins, on reçoit les prospectus en russe. Et alors, effectivement, dans la rue, lorsqu'on demande une direction, ils s'en vont, en levant les bras, ils s'enfuient. Et alors, finalement, quand ils réagissent, ils réalisent qu'on parle en chinois et qu'on dit qu'on est français, alors l'attitude change. Alors, effectivement, cette antipathie vis-à-vis de la Russie continue.
Quelle est la question, madame, s'il vous plaît ?
Ce témoignage, c'est très bien.
Oui. La question est la suivante. Combien de temps les Chinois seront-ils méfiants vis-à-vis des Russes ?
Ah, ça, j'en sais rien. Moi, ce que je trouve de très intéressant dans votre témoignage, madame,
merci,
c'est qu'il me permet de préciser... quelque chose qui est fondamental. Non. Peut-être que c'est une sorte de réinvestissement confucéen à l'intérieur de la perception que les Chinois ont du monde. Le confucianisme classait la société, et les Chinois ont gardé cette habitude de classer la société en strates, disons, de mérites très différentes. Et je crois que les Chinois regardent le reste du monde un petit peu comme le lecteur du journal L'Équipe regarde le monde du football le lundi matin, c'est-à-dire il y a les grandes équipes, hein, les équipes de rang qui pourront faire les matchs de Coupe d'Europe, et puis il y a les équipes moyennes, et puis etc., etc. Les grandes équipes sont les équipes américaines, les équipes moyennes sont les équipes européennes, les équipes de deuxième division sont les équipes sur le pourtour de l'Europe, y compris la Russie. La Russie qui est à la limite de rester en deuxième division. Et on se demande même si elle n'est pas en train de tomber dans la troisième, dans les profondeurs du classement. Dans les profondeurs du classement, il y a ensuite les grands pays du tiers-monde. Brésil, etc. C'est un peu des macaques quand même, il faut bien le dire. Hein. L'Inde, etc. Et puis au fond, le reste, disons, des équipes de promotion d'honneur, des équipes régionales, des tout petits pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et je crois que c'est cette vision-là. Alors les Russes, ce sont les Occidentaux pauvres. Et c'est très drôle, quand je demande à mon chauffeur de taxi, quand je suis bien habillé avec une cravate, et que je demande à mon chauffeur de taxi où il me classe. Bon, il me classe immédiatement américain. Si je suis habillé seulement avec un pull, là, je prends une petite allure européenne. Un peu criard, un peu comme ça, une veste un peu de couleur, je deviens italien, grec, enfin, un européen du sud. Avec un manteau, j'adore, j'ai un manteau chinois classique, etc., qui fait un manteau de douanier russe ou de cadre chinois, là, je deviens russe, quoi. Parce que je porte un manteau que eux-mêmes, maintenant, ne portent plus, qui est le manteau de cadre des années 80. Vous connaissez ça, professeur. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, je pense que, ma foi, ils cesseront de considérer les Russes comme des pauvres blancs quand ils cesseront de regarder le monde comme ils le regardent trop, c'est-à-dire un monde classé hiérarchiquement, et que je crains, hélas, que ça ne soit pas pour demain.
Vous avez évoqué dans votre présentation au début, sans employer le mot matérialisme, vous avez néanmoins parlé d'une sorte de vague de matérialisme en Chine, et vous avez aussi évoqué à la fin une place pour les vertus, c'est-à-dire une conscience des vertus chinoises. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'en fait dans la société chinoise, il y a une place, petite ou grande, pour une quête spirituelle, disons ?
Bon, d'abord, il y a des Chinois, ils sont 1,3 milliard, il y a des Chinois de toutes sortes, et qui dit qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas dans un fond de vallée une immense œuvre qui est en train de s'ébaucher. La montagne de l'âme, le roman du prix Nobel chinois Gao Xintian, et je crois un bon exemple de ces œuvres chinoises. Il y a actuellement des... Bon, la littérature chinoise n'est pas à son plus haut actuellement, mais rien n'est dit sur l'avenir, hein. Et il y a des recherches qui se font, et je crois que et puis il y a aussi de toutes sortes de Chinois, et j'ai vu des gens merveilleusement dédiés à autrui, merveilleusement généreux, et notamment, ce qui est extraordinaire, c'est que dans un pays qui est tellement fasciné par l'argent, on voit dans la jeunesse chinoise actuellement tant de mouvements vers le travail social, vers l'aide aux plus pauvres. Il y a maintenant des associations de jeunes Chinois qui s'intéressent aux travailleurs migrants. Il y a même d'ailleurs dans la population, j'ai assisté un petit matin de mars dernier, de l'année dernière, à une réunion un peu grelottante où des intellectuels, des juristes expliquaient à des travailleurs migrants chinois quels étaient leurs droits. Alors, je voudrais vous raconter, et il y a eu un moment, une avocate qui dit, et par exemple, il ne faut pas se laisser impressionner quand un policier veut vous taper dessus. Alors, le migrant lève la main et dit, mais quand il nous tape dessus, vous savez, il nous tape dessus, il fait mal d'abord. Eh bien, je vais vous donner un exemple, dit l'avocate. Quand il vous tape dessus, relevez son numéro. Alors, il y a un jeune qui dit, oui, mais c'est que quand il nous tape, le numéro est écrit tout petit, on n'arrive pas à le voir. Alors, il y a un jeune Chinois qui dit, on pourrait demander à la présidente de l'association, qui est députée à l'Assemblée de Pékin, de demander que les numéros soient maintenant écrits en plus gros. Alors, elle se lève et elle dit, on grelottait tous de froid, etc., etc. Elle avait les joues roses, là, de froid. Elle dit, c'est promis, je dépose une loi, et sorti, effectivement, un bout de règlement qui dit que, je n'ai pas vu le résultat encore sur les uniformes des policiers, que maintenant les uniformes des policiers à Pékin doivent être écrits en plus gros. Tout ça pour vous dire que cette société est véritablement très très variée, qu'il y a de tout, et que comme toujours un mouvement majeur produit son envers, si je puis dire. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Cela dit, c'est vrai que c'est actuellement une époque, un temps d'airain, un temps, disons, de fric. C'est un temps où le seul compte véritablement l'argent. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est... je n'ai jamais compté plus de... Et essayez, tous ceux d'entre vous qui irez en Chine, compter le temps qu'on met à vous apporter l'addition. Ça n'a, en près d'un an de séjour, jamais pris plus de 3 minutes. Je le dis pour tous ceux d'entre vous qui attendent l'addition après avoir déjeuné, etc., etc. Regardez comment les gens palpent l'argent. Enfin, ça se voit, c'est presque physique, si vous voulez. La Chine est actuellement dans la période où de rattrapage, c'est la période Guizot, c'est la période enrichissez-vous. Et je terminerai ma réponse, qui était un peu longue, mais pardonnez-moi, que c'est bien compréhensible. Ces gens-là ont eu faim. Ces gens-là ont été malheureux. Ces gens-là, maintenant, ont l'impression que le moment est venu, que c'est possible, qu'il faut en profiter, que demain, ça sera peut-être trop tard. Comment ne pas les comprendre? Comment ne pas les pardonner? Comment ne pas penser qu'en Chine, comme cela a été le cas en Occident, eh bien, les choses évolueront et tout ça se calmera progressivement.
Pour mesurer l'évolution quantitative de masse dont vous avez parlé de la population, je voudrais vous demander quelle était l'importance de la population chinoise, qui fait maintenant 1,3 milliard, mais l'importance à différentes périodes, je ne sais pas, en l'an 800, et puis au moment où, sous Louis XIV, chez nous, on était le premier pays d'Europe avec 23 millions, enfin, etc. Ça, c'est un petit peu l'aspect quantitatif des chiffres de masse. Et puis, un petit peu une projection, sans vous faire faire Monsieur de Soleil. Qu'est-ce qui se passera quand les dirigeants futurs n'auront plus connu l'époque de Mao, de la même façon que nous sommes maintenant en Europe, à une époque où les dirigeants actuels sont nés après la guerre? Merci.
Ça, j'ai pas bien compris votre deuxième question. Alors,
qu'est-ce qui se passera quand est-ce que ça vient? Comment ça se passera? Vous savez, difficile à dire.
Je suis pas
Madame
Soleil. Hein.
Non.
Bon, sur la population d'abord. Bon, je crois que le professeur Vandermeer, que là pourrait dire ça les choses plus précisément. Il y a eu des variations considérables à cause des mortalités, des guerres, des épidémies. Mais l'espace qui à l'époque était considéré comme étant l'espace chinois a beaucoup varié, quelque chose entre quelques millions et 50 à 60 millions d'habitants pendant très longtemps. Et à partir du XVIIe siècle, la population chinoise augmente et cette augmentation va la pousser aux alentours de 100, puis 150 millions d'habitants, puis plus au XVIIIe siècle. Et ensuite, c'est au XIXe et au XXe siècle que, malgré les guerres, malgré les famines, la population va augmenter. Il y a environ 400 millions d'habitants en Chine dans la première partie du XXe siècle. Il y en a plus de 500 millions, 500 et quelques millions, 550, 580 millions d'habitants au recensement de 1952. Et c'est ensuite que la population explose. La population explose d'abord parce que, on le dit souvent, c'est un peu facile, les Chinois aiment bien avoir des enfants, cela assure la destinée, la postérité de la famille, l'avenir de la famille. Je crois qu'il y a eu aussi, c'est mon analyse, qu'il y a eu aussi une sorte d'échange, c'est-à-dire qu'un pouvoir, comme le pouvoir, disons, se saisissait de la vie publique des gens, la vie privée, la famille s'est mise à gagner en importance. Et on s'est un petit peu rattrapé. Autant on était contrôlé, disons, dans la vie publique par le parti, autant on était mobilisé dans la vie sociale, autant le pouvoir s'était en quelque sorte saisi de l'expression publique de la vie individuelle, autant en faisant des enfants, on renforçait la part privée, disons, la part familiale de la vie, et que ça a eu valeur, disons, de défense contre un pouvoir qui lui-même, disons, s'était saisi du public, et de défense, mais dans un domaine où le pouvoir avait donné le feu vert. Et ça a été, d'ailleurs, à la fois une des raisons pour lesquelles le pouvoir communiste était relativement admis, et en même temps une des plus graves erreurs au plan démographique de Mao Tse-tung, puisque cette explosion démographique qui a porté en un demi-siècle la population chinoise, disons, un double, plus que doublement, maintenant contraint la politique démographique des autorités chinoises à évoluer de carib à silla. Carib, c'est ils sont trop, silla, c'est il n'y aura pas assez de jeunes. On évolue maintenant. La Chine est encore en train de lutter contre l'excès de la croissance démographique, que déjà se profile le drame du vieillissement de sa population, de l'insuffisance du nombre des jeunes. On parle dans le journal, dans les journaux français, de la nécessité de financer les retraites en France, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes travailleurs, et il y en aura de moins en moins proportionnellement. Qu'est-ce que ça va être en Chine ? Qu'est-ce que ça va être en Chine ? Quant à Shanghai, il y a déjà plus d'un million de plus de 65 ans, dont une proportion, croissante doit être aidée par leurs enfants. Lesquels enfants ? La vie s'individualisant, consommation, loisirs, etc., veulent de moins en moins s'occuper de belle-papa, belle-maman. Donc il y a là, si vous voulez, un problème absolument effrayant qui se pose, et qui est l'issue, la suite lointaine des erreurs du pouvoir maoïste.
Bonjour, j'ai beaucoup apprécié moi aussi votre conférence. Et mes amis de classe et moi, nous nous sommes demandé quelle était votre opinion sur l'avenir entre le Tibet et la Chine.
Ouais. Vous êtes en quelle classe ?
Troisième.
Ah ben bravo. Et bravo à votre professeur. Votre professeur est là ?
Oui, il est
par là. Ah ben c'est très sympa.
Il est par là avec
les premières.
C'est très
sympa. C'est très, très... Bah écoutez, vous êtes dans quel lycée ?
Gerson.
Où c'est le lycée de Gerson ?
C'est dans le 16e, rue de la Pompe.
Eh ben écoutez, bravo. Alors, voilà. Trois choses. C'est immense, là, la question tibétaine. En gros, la culture tibétaine est une culture très différente, très fortement identifiée, d'une richesse extrême. Mais d'autre part, le destin du Tibet et le destin de la Chine ont toujours été assez proches. Et l'histoire a souvent mis ces populations en contact, d'autant que, bien souvent, c'était les Tibétains qui, pour régler leurs propres disputes, appelaient l'empereur de Chine à la rescousse. Donc cette affaire est une affaire extraordinairement compliquée. Et je voudrais vous appeler là, à lire des choses sur l'histoire du Tibet qui mérite, et à lire des choses aussi sur l'imbrication de la civilisation chinoise et de la civilisation tibétaine. Il faut savoir qu'à Chengde, le lieu de résidence d'été de l'empereur de Chine, ont été édifiés au 18e, je crois, au 19e siècle, des temples à la mode tibétaine. Il y a un grand temple des lamas à Pékin. Donc tout ça, c'est une histoire qui mérite, je dirais, l'étude, la réflexion, etc. Et la culture tibétaine mérite notamment pleinement respect. Le deuxième point, c'est que le Tibet a été menacé d'un véritable culturocide et quasi-génocide dans les années 50 et surtout 60 et 70, mais qu'il y a réchappé. Et que, comme la tâche n'avait pas été achevée, eh bien, les Tibétains se sont ensuite redressés. Et que c'est produit à partir de la fin des années 70 et dans les années 80, un véritable malentendu, c'est-à-dire qu'au moment où le pouvoir chinois amollissait plutôt sa politique, les Tibétains, eux, en ont profité pour, au contraire, récupérer, régler un peu les comptes. Et donc... alors que les Chinois espéraient régler l'affaire progressivement en donnant une espèce de petite autonomie interne, il y a eu un mouvement très fort en faveur du Dalai Lama en Chine même. De là, une situation de blocage, à la fois parce que les Tibétains étaient très profondément fidèles au Dalai Lama et à leur religion, et parce que les Chinois ne voulaient pas, négocier avec le Dalai Lama par crainte que Taïwan puisse s'inspirer du précédent. Donc il y a un peu comme ça un blocage qui, depuis quelques mois ou quelques années, donne l'impression de pouvoir être érodé, à la fois parce que la situation s'arrange au Tibet grâce aux investissements chinois, et que donc le gouvernement chinois peut avoir l'impression qu'il a la situation bien en main, mais en même temps que d'un autre côté, les responsables tibétains se rendent compte que la sinisation qui suit le développement économique au Tibet menace véritablement leur capital identitaire, et que donc il faudrait peut-être là aussi négocier. En tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne peux pas lire dans le marc de café. On est plutôt dans une période moins mauvaise que d'autres. Et je me permets d'espérer très fortement que, disons, d'une part, les Tibétains eux-mêmes comprennent que le rapport des forces n'est pas simple et pas en leur faveur, mais que, d'autre part, les Chinois aient plus loin dans la dans, disons, dans la définition de l'autonomie qu'ils sont prêts à accorder et que le Dalai Lama a dit à plusieurs reprises qu'il accepterait une autonomie très large. On n'est pas très très loin. Quand on regarde les positions dans le détail, elles ne sont pas très très éloignées. Simplement, il y a une méfiance des dirigeants chinois à l'égard du Dalai Lama d'un côté, et il faut bien le dire, de bien des collectivités monastiques ou d'une large partie de la population tibétaine, et une méfiance qu'on comprend compte tenu de l'horreur de ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 à l'égard du pouvoir chinois. Il faut quand même souhaiter, et pour les Tibétains, dont le stock culturel, dont l'identité culturelle est maintenant profondément menacée, et pour les autorités chinoises dont l'image internationale est menacée par cette affaire-là, il faut souhaiter que le compromis, qui n'est pas impensable, puisse être réalisé dans les années prochaines.
Vous nous avez dit votre souhait de voir les Africains imiter la Chine. Iriez-vous jusqu'à conseiller aux Chinois d'imiter les méthodes nord-américaines pour la conquête de leur Far West ? Question très courte.
La réponse peut être rapide.
Oui, la réponse va être très, très rapide. Je crois que ce qu'il faudrait effectivement souhaiter que les Chinois parviennent à développer leur Far West. Parce que c'est un immense potentiel, c'est un immense espace, il y a des minerais, il y a du pétrole, etc. Mais je ne leur conseillerais pas d'écraser les minorités nationales, plus ou moins turques ou tibétaines, qui occupent leur Far West. Ça, c'est sûr, c'est sûr.
Bonjour monsieur, je voudrais vous poser une question concernant la liberté du citoyen chinois en place. Il me semble que l'ouverture vers l'Occident ne va pas sans une ouverture vers la liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la liberté du chinois en Chine, de la sienne à l'extérieur, à savoir par exemple, parle-t-il de son parti très librement là-bas ? Quelles sont ses réactions également à l'extérieur? En parle-t-il plus librement ou pas? Se trouve-t-il chapeauté, surveillé? Existe-t-il des systèmes de blocage qui lui interdisent moralement de pouvoir exprimer son opinion?
Oui. D'abord un point. La façon dont se sont exprimés les deux étudiants chinois qui ont parlé, et je trouve magnifique pour nous et pour eux qu'ils se soient exprimés. Ils ont eu le courage de s'exprimer et vous avez eu la politesse de le leur permettre. Je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons être les uns et les autres fiers. Mais aussi, leurs propos montrent bien que, contrairement à une idée qu'on a de loin, les Chinois méditent sur eux-mêmes, sur leur société, qu'ils ont leur propre opinion. Bref, qu'il n'y a pas deux façons différentes d'être en société, la façon occidentale et la façon chinoise, ou asiatique, et que les Chinois ont une réflexion sur leur propre vie, sur leurs propres conditions. Et je dirais même qu'ils n'ont jamais cessé de l'avoir, y compris sous le communisme, simplement. Sous le communisme de Mao, ben voilà, on ne pouvait pas tout dire, et aussi, même dans le privé, il fallait faire attention. Ce qui s'est passé depuis la démaoïsation, depuis le Deng Xiaoping, c'est que la zone du privé, disons, s'est élargie, et la zone du public s'est plutôt rétrécie. Et que, en gros, on peut dire à peu près ce qu'on veut quand c'est dans le privé, quand ça ne touche pas à la politique. Quand ça touche à la politique, alors il existe 1000 moyens de faire savoir ce qu'on pense, et les Chinois s'en saisissent de ces moyens-là. Mais je dirais que c'est là que les difficultés commencent. Alors il y a deux façons de les tourner, soit en utilisant des façons de faire, des façons de voir qui font comprendre ce qu'on pense, soit en limitant les revendications à des domaines extrêmement concrets, sociaux, ponctuels. Par exemple, des grévistes n'iront pas dire, manifester contre le gouvernement, mais ils demanderont des avantages financiers ou des avantages sociaux. De la même façon, on parlera d'un problème de pollution et pas des autorités qui en sont responsables. Mais l'évolution poursuit une direction dont le sens est clair. Et ce sens, c'est que de plus en plus, les Chinois prennent part au débat et à la réflexion sur leur propre société.
Merci, Monsieur Domenac, pour votre très intéressant exposé. Je voudrais revenir sur l'ouverture vers l'étranger en parlant de l'Asie centrale. Est-ce que l'éclatement de l'URSS ne permet pas aux Chinois, aux officiels chinois, d'avoir des velléités sur l'Asie centrale?
Oui, velléité non, mais c'est quand même loin. Mais en tout cas, l'éclatement de l'URSS aura été une opportunité stratégique extraordinaire pour la Chine, qui en a très intelligemment profité, d'une part en entretenant de bons rapports avec Moscou, ça ne peut pas faire de mal, et d'autre part en se rapprochant de tous les morceaux de l'ex-URSS, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Et ils ont réussi le record de faire une organisation, l'organisation de Shanghai, qui comprend à la fois la Chine, la Russie et les anciens pays soviétiques d'Asie centrale. Et cette organisation est pour Pékin et pour Moscou à la fois un moyen, disons, de contrôler de loin un peu les petits pays d'Asie centrale. Et d'autre part, la Chine a un volant d'échange tout à fait considérable avec la Russie d'Extrême-Orient, et cette Russie d'Extrême-Orient est même d'ailleurs progressivement, en partie, il ne faut pas exagérer, faire attention aux mots, j'allais dire colonisée, mais enfin, il y a beaucoup de Chinois qui maintenant remontent, disons, vers le nord, et on peut conclure et la réponse à votre question et d'une certaine façon cette séance de ce soir par cette idée que, au fond, la Chine pendant très longtemps était l'objet de colonisation par d'autres pays s'installaient chez elle, et notamment des Russes. La puissance russe descendait vers le sud, si je puis dire, progresser vers le sud. Ce mouvement maintenant est inversé, non pas que la Chine ait quelque intention que ce soit d'envahir quel que ce soit de ses partenaires, mais il y a un mouvement, disons, du sud vers le nord, de remontée des populations, mais surtout de l'influence économique chinoise dans les vallées sibériennes, et que ce mouvement est l'expression, disons, locale d'un mouvement plus général qui est un des mouvements qui caractérise le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la Chine était un creux de pouvoir et d'influence dans le monde il y a un siècle, c'était une sorte de zone fermée mais où il se passait rien de très signifiant pour les autres il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est devenu maintenant une partie signifiante du reste du monde, une partie qui est engagée économiquement dans le reste du monde et dont il s'agit de savoir si elle va être capable un jour de s'y engager totalement, c'est-à-dire socialement et culturellement aussi. Merci.
Merci.